mois, retrouvez sur Fréquence Mistral Gap votre émission littéraire Des coups au cœur, proposée par l'association Littéra 05. Anne-Marie sélectionne pour vous les bouquins des livres nomades et vous donne l'envie de sentir l'odeur des pages et de vous évader au gré des lignes. Pour en savoir plus, allez sur le www.littera05.com.
Bonjour, nous allons aujourd'hui, introduire dans Des coups au cœur un livre nomade. Juste deux mots pour vous rappeler ce que sont les livres nomades. C'est l'association Littéra qui choisit chaque année 12 ou 13 livres et qu'on met à la disposition, gratuitement bien sûr, qu'on met à la disposition des gens dans des lieux insolites, des commerces, un petit peu partout dans le département. Cette année, le thème, c'était Terre d'Afrique. Donc nous avons 13 livres sur l'Afrique. Aujourd'hui, je vous en présente un. Ténèbres à midi, de Théo Ananisso. Il a été publié chez Gallimard en 2010. Théo Ananisso, qui est né en 1962, vit en République centrafricaine jusqu'à l'âge de 12 ans, avant de suivre ses parents qui reviennent au Togo pour fuir le régime de Bokassa. Donc c'est un livre qui va se passer au Togo. En 1986, il vient à Paris pour y suivre des études de lettres à l'Université de Paris 3, où il obtient une maîtrise de lettres modernes et un doctorat en littérature générale. Et à partir de là, il va enseigner le français dans des collèges, et puis il a enseigné la littérature africaine, justement, à l'Université de Cologne en Allemagne, où il vit depuis 1994. Il a publié 6 romans, dont 3 chez Gallimard dans la collection Continent Noir. Alors, Ténèbres à midi, le narrateur, écrivain lui aussi, revient dans son pays natal après 20 ans d'exil en France et en Allemagne. Ça rappelle bien entendu le parcours de l'écrivain. Je suis parti de chez moi depuis 22 ans. Je n'y ai jamais eu à mener les luttes et les intrigues de l'âge adulte pour s'assurer une place au milieu des autres. Un pays où l'on est né, mais où l'on ne gagne pas sa vie, est plus imaginaire que réel. Je rentre avec en tête les réalités d'autrefois. Tout ce que je découvre me désole au nom de ce que j'ai connu. Malgré moi, les parents et les connaissances sont ceux que j'ai laissés 20 d'années plus tôt, c'est-à-dire jeunes ou dans la force de l'âge. Je suis donc surpris de retrouver des vieux décatis et dénutris, de voir des constructions hétéroclites et des rues défoncées, là où il y avait jadis un joli terrain vague ou une plantation de cocotiers. Il me faut y penser pour ne pas m'étonner du décès naturel d'une personne déjà adulte à l'époque de mon adolescence. Je calcule et constate que j'ai à présent l'âge qu'avait le défunt quand j'allais au lycée. Le pays reste donc pour moi intact de toute expérience pratique. Je n'y peux rien projeter qui n'appartienne à l'innocence de l'enfance. Les rues de notre quartier sont celles où nous jouions au foot et que j'empruntais pour aller à l'école. J'ai besoin de voir de près quelqu'un comme Éric Bameson, de m'entretenir avec un homme né après la colonisation comme moi, qui mène son existence d'adulte dans ce pays, qui y agit. Alors le narrateur, donc, qui ressemble beaucoup à l'auteur, le narrateur donc veut se réhabituer, revient au Togo après 20 ans d'exil, et il veut se réhabituer à son pays qu'il a quelque peu oublié dans le but justement d'écrire un livre. C'est ce que lui a demandé une ancienne amie installée dans le pays. Nadine est française, elle a 37 ans, ses longs cheveux et ses sourcils noirs lui donnent l'air d'une orientale. Elle est née et a grandi ici. Sa famille possède des commerces et des exploitations agricoles. Sa mère a perdu la vie dans un accident d'avion il y a 1 an et son père a décidé de se retirer des affaires au profit du frère aîné de Nadine. Après des études d'économie en France et son divorce, Nadine est rentrée avec ses 2 fils et dirige une grande librairie. Je l'ai connue en 2006 à l'occasion d'une invitation par le Centre culturel français. Elle fume, boit beaucoup de café et regarde souvent dans le vide pendant de longues secondes, ce qui au début m'a fait penser qu'elle se droguait sans doute un peu. Je suis partie de chez moi il y a plus de 20 ans. Mes amis d'enfance ne sont plus trouvables. Eux aussi ont fui et sont éparpillés en Europe et en Amérique du Nord. À leurs anciennes adresses, on est même surpris que je demande de leurs nouvelles. Comme bien d'autres jeunes Africains piégés par l'exil, ils n'écrivent ou ne téléphonent guère à leur famille et rentrent encore moins. Nadine m'est indispensable pour reprendre pied dans un pays qui est plus le sien que le mien. Au reste, c'est elle qui m'a dit en 2006. Je lui parlais d'un récit que je venais d'écrire sur la Tunisie. « Mais pourquoi ne fais-tu pas la même chose sur notre pays ?» Cela a été une exclamation étonnée. Les mots « notre pays » m'ont plus que troublée. Je suis restée court. « Pourquoi ne viens-tu pas regarder ici ? Il y a beaucoup à voir. Cette ville, les lieux de ce pays ne sont pas encore dans les livres. » Je lis souvent les romans des auteurs africains que nous vendons. Au lieu d'inventer, pourquoi ne voyagez-vous pas plutôt au Libéria, au Zimbabwe, au Gabon, pour décrire ce qui s'y passe ? Pourquoi l'idée ne vous en vient-elle pas ? Revenu 2 ans après, avec le projet d'un récit sur la réalité, j'aborde le pays sans autre contact que celle qui me l'a suggéré, un peu comme si je voulais lui faire payer la justesse de ses propos. Nadine m'amène dans les dîners auxquels elle est conviée et me présente aux uns et aux autres. L'un de mes souhaits est de voir de près quelques-uns de ceux qui participent au régime. J'éprouve à leur sujet une curiosité comparable à celle qu'on a pour les bêtes ou les plantes rares. Rencontrer une de ces personnes qui gouvernent le pays, quelqu'un qui a mon âge, qui a fait des études, et m'informer de ce qu'il est et de ce qu'il pense. « Éric Bameson est ton homme !» s'exclame Nadine sans me laisser finir d'exprimer ma pensée. « Il est conseiller spécial à la présidence. » Je résiste à cet enthousiasme, crains qu'elle ait mal compris mes intentions. Mon idée est de rester 4 semaines. J'ignore ce que je peux écrire. La description de mes impressions m'a vite semblé insatisfaisante. Je ne suis pas assez extérieure au pays et à son histoire. « C'est un homme vraiment intéressant, » continue Nadine en se penchant en avant, pressant ainsi sa poitrine contre la table. « C'est l'un des très rares avec qui l'on peut causer intelligemment, » ajoute-t-elle en prenant le ton de la confidence. « Il est brillant et sensible. Il vient souvent commander des livres à la librairie. » Cela me donne l'idée d'un portrait. Pourquoi pas partir d'un homme du régime pour creuser et essayer d'obtenir une vue interne, un peu comme on coupe une papaye à la verticale. Le plus simple est d'organiser une rencontre entre M. Bameson et moi. Nadine y a pensé, elle dit d'une voix ralentie. Je pourrais vous inviter tous les deux à la maison afin que vous fassiez connaissance. Elle se tait un instant, regarde dans le vide comme à son habitude. Mais il me faudrait convier aussi sa femme. Elle grimace son embarras. Je ne m'entends pas avec elle. C'est son amie qui lui avait mis au défi d'écrire un livre sur le pays. Alors, voulant donc rencontrer des gens susceptibles de l'aider dans sa démarche, elle lui présente donc Éric Bameson, un haut fonctionnaire. Il a un entretien avec lui dans un restaurant et ce qu'il lui dit le déconcerte. En fait, c'est un homme désabusé qui se sent pris au piège et un homme brisé qu'il rencontre. Ils sont donc au restaurant. Nous commandons tous les deux des plats de poisson accompagnés de légumes. Je reviens à ses propos devant l'ascenseur et ne dissimule pas mon étonnement. Pourquoi regrettez-vous d'être rentré ? Il plisse le front, prend le temps de la réflexion et médite. Tutoyons-nous, s'il te plaît, dit-il. Avec plaisir. Il laisse s'écouler encore plusieurs secondes. « Regretter n'est pas le mot exact, » rectifie-t-il d'un air songeur. « Je voulais rentrer. »« Non, l'erreur, » il réfléchit. « L'erreur, c'est d'avoir sous-estimé la réalité d'ici. Je n'ai pas saisi qu'il fallait revenir en faisant très attention. Tu me comprends ?» Je secoue la tête. Il s'arrête de manger, me fixe. « Pendant les 9 années que j'ai passées en France, je n'ai pas eu envie d'y rester. » Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que moi, je devais me prémunir. Je l'interromps, désolé. J'aimerais beaucoup prendre des notes, s'il te plaît. Si tu veux, répond-il à travers un sourire un peu surpris. Il me regarde sortir le carnet de la poche de ma chemise. Notre conversation va sans doute en être influencée. Il faut pouvoir empêcher l'Afrique de te détruire, reprend-il. Sans cesse. Tu veux lui être utile, mais il faut l'empêcher de te casser. Il s'arrête encore un instant, se penche vers moi. Il n'y a vraiment rien dans quoi investir sa foi. Rien pour porter ta sensibilité. Tu comprends? Rien. Je hoche la tête. Il bouge la main droite. Tu rentres et tu restes avec ta capacité intellectuelle et ton sens moral si chèrement amené à maturité sous le bras, comme un paquet encombrant que tu ne sais où poser. De loin, d'Europe, comme tu es dans un milieu où chaque matin les hommes se lèvent pour recréer le monde, tu extrapoles au crédit de l'Afrique. Tu te fais là des illusions très dangereuses. Bien ou mal, le monde est une création humaine. Tu l'apprends, tu le vérifies autour de toi en Occident et tu t'illusionnes sur le compte de l'Afrique. Tu t'imagines qu'en Afrique aussi, il y a un moteur que tu peux alimenter, toi, de ton talent et de ton énergie. Tu rentres et tu tombes de haut. Tu retrouves ce que tu as laissé en réalité, ce que tu n'as absolument pas vu avant ton départ pour l'Europe. Les gens ici ne savent pas qu'ils ont à créer le monde eux aussi. Mais toi, avec tes ouvrages, tu accomplis une œuvre créatrice. Il secoue la tête sans me laisser finir ma phrase. Ce n'est rien puisque personne n'en veut. Tu ne peux pas exprimer ta force avec un pays comme celui-ci. Il t'oblige à y renoncer, à retourner à la vie orale stupide. J'écris vite, abrégeant la plupart des mots. Il poursuit. Mon retour a été brutal. Il s'explique. Il est rentré au pays et s'est retrouvé aussitôt à un poste et dans un environnement qui ne lui ont laissé aucune possibilité d'illusion. Il dit « aucun échappatoire ». Je feins de ne pas bien comprendre. Il me regarde un temps en silence. Je crains alors de l'exaspérer en faisant trop. Nous sommes assis à l'écart des autres clients, des blancs et des orientaux du genre libanais. Personne ne peut nous entendre, mais il me paraît également se méfier de ces gens. Le serveur vient vers notre table, on le laisse débarrasser. Je contemple la pénombre fleurie au pied de la rotonde, ramène ensuite les yeux sur lui. Il se demande sans doute s'il peut me faire confiance. Je prends l'initiative et opère une volte-face. Ce qui déconcerte, c'est l'impression que personne n'est humilié de vivre dans ce pays. Il hausse les épaules, sourit. Il fait un rictus plutôt. L'enfance, énonce-t-il d'un ton blasé. L'enfance de chacun est la mesure de ce qu'il accepte ou pas, de ce qu'il offusque ou pas à l'âge adulte. L'idée me semble à la fois familière et inattendue. Je reprends mon stylo, il me laisse le temps de noter. Il ne faut pas trop s'étonner de voir les Africains accepter des conditions de vie aussi infectes. Chacun de nous apprécie son présent par rapport à son enfance. Nous ne nous sentons pas humiliés quand c'est matériellement un peu mieux qu'hier. Je dois baisser la tête sur ce que je griffonne sans retenue. Quand je la relève, il sourit. Tu penses sans doute à cet instant. Et toi, Éric Bamezon, ton enfance est inférieure à ta vie actuelle de conseiller à la présidence, non? Je n'ai pas eu une telle idée, mais je n'acquiesce ni ne conteste, me contente de sourire à mon tour. Je vais te répondre. Dans les faits, oui. J'ai eu une enfance pitoyable. Il plisse le front. Mais je m'efforce de la conjurer et je pense que j'y arrive. À quel usage? Cela m'est sorti involontairement. Il comprend, hoche la tête. Oui, à quel usage? Répète-t-il. Tu me vois en cravate, en voiture, en compagnie de jolies femmes. Je participe au régime. Il me regarde sans irritation. Je vais te répondre un peu plus tard, cette nuit même, promis. Le serveur revient vers nous avec cette obséquiosité que les domestiques en Afrique prennent pour de la politesse. Voulons-nous un dessert? Éric Bamezon dit ensuite, me donnant le sentiment qu'il n'a pas envie de passer plus de temps qu'il n'en faut dans le restaurant. on prend un digestif ailleurs. Voilà, ce livre nous offre une vision bien sombre du pays, vous le découvrirez bien sûr au fur et à mesure de votre lecture, et une vision sombre non seulement du Togo, mais de l'Afrique tout entière. L'auteur emploie des mots très durs, et que certains vont juger sans doute trop durs pour l'Afrique. Il adresse à l'Afrique des reproches très violents. Il reproche en particulier certaines pratiques. Comment se comportent les hommes en temps de dictature? Comment devrait-on se comporter en temps de dictature? Quelle devrait être la conscience des hommes en temps de dictature? Donc ce qu'il redécouvre, aussi bien Éric Bamezon que le narrateur, ce sont les conditions de vie déplorables des Africains. C'était déjà la réalité quand ils étaient enfants. Et comme rien n'a changé, ils ne peuvent qu'avoir que des jugements très très durs. La pression va s'intensifier et nous, lecteurs, nous comprenons que le dénouement sera tragique, inéluctablement. C'est un livre qui fait naître une grande émotion chez le lecteur, enfin en tout cas chez moi. Merci pour votre écoute, à bientôt. Hey.